Bonjour Jérôme Kerviel.
Bonjour.
Un an d'enquête, l'instruction est terminée. Comment est-ce que vous réagissez à cette décision?
J'étais très surpris, puisqu'il y avait encore de nombreuses zones d'ombre au dossier. Malheureusement, les juges ont rejeté toutes mes demandes d'actes, toute investigation complémentaire. Toutes les preuves sont à la Société Générale, tous les documents, les écritures comptables, les écritures informatiques. Si le juge veut les chercher, il peut aller les chercher. Il n'y est pas allé.
Pas d'enrichissement personnel, affirme l'enquête.
Non, je n'ai pris aucun centime dans cette histoire. Certes, j'ai une part de responsabilité, j'ai fait des bêtises, je le reconnais. Mais toutes ces bêtises, je n'ai pu les faire que parce que la banque m'a laissé les faire et m'a encouragé à les faire. Vous savez, au début de l'affaire, l'avocat de la Société Générale a déclaré c'est l'histoire d'un homme qui a vu la voiture ouverte et qui l'a piqué. L'histoire qui me concerne, ce n'est absolument pas ça. Ils ont ouvert la portière, m'ont tendu les clés et m'ont fait des signes de la tête en me disant « Vas-y, va faire un tour ». Ils m'ont incité à le faire. Ils m'ont regardé le faire, le tour. Et un jour, ils se disent « Ah ben, on s'est fait voler la voiture ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils m'ont laissé faire et le jour où ça a été perdant, quand ça les arrangeait, ils m'ont lâché. J'ai fait une bêtise, c'est clair. J'ai fait une grosse bêtise. Mais si, encore une fois, cette bêtise, je n'ai pu la faire que parce qu'on m'a laissé la faire.
Alors justement, cette bêtise, c'est ce fameux trou de 4,9 milliards d'euros. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre?
Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Là, encore une fois, c'est un élément manquant dans l'enquête. La Société Générale a annoncé une perte de 4,9 milliards d'euros, mais n'a apporté aucun élément prouvant la réalité de ce chiffre. Je ne suis même pas sûr que dans ce chiffre, il n'y a pas des pertes qui sont liées à d'autres personnes ou d'autres positions. Je n'en sais rien. J'avais demandé au juge d'instruction de contrôler comment la réalité de ce chiffre, de façon indépendante. Ils m'ont refusé cette demande.
C'est-à-dire qu'on vous fait porter le chapeau de la globalité de ce chiffre?
Tout à fait.
On met tout sur Jérôme Kerviel, quoi.
On met tout sur Jérôme Kerviel, effectivement.
Qui est à bon dos dans cette affaire.
Qui est à bon dos, mais qui ne se laissera sûrement pas faire.
Jérôme Kerviel ne pouvait pas échapper à la hiérarchie?
Non, c'est impossible. Tout était visible. Mes positions, je les prenais devant tout le monde, devant mes managers. J'ai voulu faire gagner de l'argent à la banque. Toutes mes opérations ont été vues, monitorées et contrôlées. Vous croyez sincèrement qu'une opération de 15 milliards d'euros passe inaperçue et que la banque ne se pose aucune question? Moi, de mon côté, je ne me cachais pas, j'étais au milieu du desk et tout le monde me voyait faire.
Et les autres faisaient souvent pareil?
Oui, je ne suis pas là pour balancer, mais oui, il y a quand même une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que tous nos faits et gestes sont contrôlés en temps réel. On est tous les uns à côté des autres. On peut exactement entendre tout ce qui se dit au téléphone à côté. On ne peut rien faire sans que les gens ne s'en aperçoivent. Que chacun prenne sa responsabilité. Moi, je prends les miennes. J'ai fait une bêtise, c'est clair. J'ai fait une grosse bêtise. Mais si, encore une fois, cette bêtise, je n'ai pu la faire que parce qu'on m'a laissé la faire.
Pourquoi vous décidez aujourd'hui à parler?
Maintenant que l'instruction est close, je reprends ma liberté de parole. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, complètement fausses sur l'histoire, sur moi, sur ma vie. Que je suis un terroriste, que je suis un autiste, que j'ai avancé tout seul dans les systèmes de façon complètement indécelable. Je n'ai jamais rien volé, je n'ai pas voulu jouer, je n'ai jamais été indétectable. Je ne suis pas quelqu'un de secret et je ne suis pas menteur. Et je souhaite aujourd'hui rétablir un peu la vérité.
18 janvier 2008, la direction de la Société Générale vous convoque. Comment ça se passe?
Avec le recul, je dirais que ça ressemblait plus à une garde à vue qu'autre chose. On a essayé de me faire dire des choses que je ne voulais pas dire, des choses qui n'étaient pas la réalité, me faire avouer des choses que je n'ai jamais faites. Probablement pour me faire porter une responsabilité seule dans un petit bureau avec des personnes qui se relayaient pour m'interroger.
À partir de là, tout s'accélère.
Tout s'accélère, tout va très vite. Je vois ma photo qui circule partout sur Internet, partout sur les télés. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film et je comprends juste pas pourquoi ils m'ont lâché à ce moment-là. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. À aucun moment j'aurais pu imaginer ce tel déchaînement. J'ai commencé à en prendre un petit peu conscience avant l'annonce de la Société Générale de sa perte. Lorsqu'un employé de la Société Générale m'appelle et me dit quittez Paris, changez de portable et prenez un billet de train et partez. Quoi.
Et là, qu'est-ce que vous répondez?
Je suis un peu déstabilisé. On me dit qu'il va y avoir une annonce, je ne sais pas quelle est la teneur de l'annonce. Tout ça accélère, tout va très vite. Mon nom qui circule partout. Je comprends rien à ce qui se passe. Ça me dépasse complètement, et même encore aujourd'hui, ça me dépasse complètement. Tant sur le plan médiatique que sur le plan émotionnel, je ne prends pas forcément complètement la mesure de tout ce qui se passe encore aujourd'hui.
Donc il y a la plainte de la Société Générale. Là, vous savez que vous allez être entendu par la police à ce moment-là?
Non. Non, pour la simple et bonne raison que toutes les personnes que j'ai consultées à l'époque me disent que c'est un problème prud'homal et pas pénal.
Vous ne pensez pas que ça aille plus loin?
Non. Je suis loin de l'imaginer. Assez rapidement, j'ai une convocation pour aller à la brigade financière. J'y vais malgré tout sereinement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que toutes les preuves sont à la générale et que la vérité est à la générale. Donc s'ils vont les chercher, a priori, j'ai pas trop de problèmes à avoir. Ça fait jamais plaisir d'être en garde à vue. C'est un choc, c'est long. Je reconnais ma part de responsabilité. Je dis voilà comment ça s'est passé. Je m'explique sur ce que j'ai fait. Je suis arrivé au trading en 2005. J'avais un objectif financier de 3 millions d'euros à réaliser. En 2008, mon objectif financier est passé à 55 millions d'euros. Citez-moi un secteur où on demande de tels rendements à un salarié. Ça veut dire du stress, une pression au quotidien pour réaliser les résultats. Il y a une véritable pression.
Qui est sur tous les traders ?
Qui est sur tous les traders. Tous les jours, à la fin de la journée, votre supérieur vient en demandant « Est-ce que tu as gagné aujourd'hui ? Est-ce que tu as été une bonne gagneuse ?» Cette expression, je l'ai entendue maintes et maintes fois. « Est-ce que tu as été une bonne gagneuse aujourd'hui ?»
On a dit aussi que vous vouliez briller face aux autres traders.
Non, absolument pas. Mon objectif n'était absolument pas de briller vis-à-vis des autres traders. J'avais peut-être moins de diplômes que certains. C'est ce qui était beaucoup dit au début de l'affaire, que je voulais briller parce que j'avais moins de diplômes. J'essayais juste de faire mon boulot.
Alors là, en garde à vue, vous apprenez que c'est le juge Van Ruymbeek qui est chargé du dossier. Mm-hmm. Et sur le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, je suis content parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais la plus grande estime. C'est quelqu'un que j'ai suivi quand j'étais étudiant, puisque j'ai même fait un mémoire sur lui. Quelqu'un que je respectais beaucoup. Je ne me dis pas que l'issue va être positive, je me dis que l'issue va être équitable.
Lui, le juge ne veut pas vous mettre en prison. Mm-hmm. Le parquet lui décide de votre incarcération.
Je m'y attendais absolument pas. À aucun moment, j'ai cherché à fuir. Je me suis présenté à toutes les convocations. Tout de suite, j'ai donné mon adresse. J'ai vraiment, entre guillemets, joué le jeu de A à Z. J'étais prêt à m'expliquer. Et j'ai juste pas compris qu'on me mette en prison sous prétexte que j'allais fuir ou que j'allais me suicider. C'est une expérience horrible, très dure. Je ne souhaiterais à personne. Mais je me suis retrouvé face à moi-même et ça m'a permis de prendre peut-être du recul face à tout ce qui se passait.
Quel a été le moment le plus dur ? Un moment où peut-être vous avez douté ?
L'image que je garde, c'est... Le regard de ma mère dans un couloir de 2 mètres carrés à la prison de la santé, au moment du parloir. C'est l'image que je garde. Je ne souhaite pas m'exprimer plus que ça sur le sujet. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'ai la chance d'avoir une maman qui m'aime. Et c'est formidable. Et elle m'a beaucoup soutenu pendant cette période. Je garde cette image en tête tous les jours. C'est ce qui me permet aussi d'avancer.
Qu'en est-il de ces transactions suspectes ? Est-ce que vous avez misé au-delà de ce qui était autorisé ?
J'en reconnais avoir été trop loin, d'avoir pris des positions importantes. Il y a une certaine déconnexion de la réalité à un moment donné. Les chiffres ne veulent plus réellement dire grand-chose. Le premier ordre que j'ai passé, c'était un ordre d'un montant de 200 000 euros. Ce premier ordre, j'avais la main qui tremblait, quasiment le prix d'un appartement. Au bout d'une semaine, j'ai complètement oublié cette crainte. Je me suis laissé entraîner dans une spirale auto-alimentée sur laquelle mes supérieurs mettaient de l'huile pour que ça tourne à plein régime. C'était mon métier. La salle des marchés, c'était complètement à quoi qu'on ait. On s'y sent bien, tout le moins, moi je m'y sentais bien.
C'était quoi finalement une bonne journée pour Jérôme Kerviel à la Société Générale ?
En fait, une bonne journée pour un trader sur l'activité sur laquelle j'étais, c'est environ 40-50 000 euros de gains. De mon côté, j'ai affiché certaines journées 1 million d'euros. C'était des chiffres complètement irréels et c'était considéré comme normal.
Est-ce que quelqu'un à un moment donné vous a dit « attention, là, tu vas trop loin » ?
Non, à aucun moment on m'a dit « stop ». J'aurais bien aimé qu'on me dise arrête tes conneries, ça va mal se passer. La réaction de mes managers et de mes supérieurs m'encourage à continuer puisque tout le monde est satisfait. Je n'ai aucun blâme, aucune réprimande.
38 auditions oui. dans le cabinet du juge Van Ruymbeek.
Oui, je m'explique de la même façon que j'ai fait avec les policiers, je m'explique sur ce qui s'est passé. Ça se dégrade à partir du moment où il ne veut plus entendre ce que j'ai à lui dire et que tous les éléments à décharge, il ne les prend pas en compte.
Vous avez dit que l'instruction était sponsorisée par la Société Générale.
J'ai effectivement l'impression que la Générale tire officielle dans cette enquête, que cette instruction est pilotée par la banque. Ce que je peux vous garantir, c'est que je ne lâcherai rien jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne lâcherai rien. Je vais continuer à faire des demandes d'investigation complémentaire au juge. Il refusera pas, ce sera son choix. Mais je continuerai clairement à me battre. Vous savez, mon père m'a transmis une chose qui est son nom. Il a été sali durant cette affaire. Et je n'ai qu'une idée en tête, c'est faire éclater la vérité.
Est-ce que vous avez l'envie de retourner dans une salle des marchés, de redevenir trader ?
Certainement pas. C'est un milieu que je ne veux plus connaître. C'est plus du tout un endroit que j'ai envie de fréquenter. C'est plus du tout des gens que j'ai envie de fréquenter. Tout est faux dans ce milieu. Tout est irréel. Tout est basé sur le paraître. Tout simplement, je ne me reconnais plus du tout dans ce milieu-là. J'ai ouvert les yeux, je ne me reconnais plus du tout.
Qu'est-ce que vous diriez à Jérôme Kerviel si vous ne le connaissiez pas et que vous le rencontriez ?
Qu'est-ce que t'as été con ? Avec le recul, je me suis laissé emballer par tout un système. Je me suis laissé entraîner, ouais.
Vous redoutez le moment où il faudra peut-être comparaître en correctionnel ?
Qui ne redouterait pas ce moment ? Surtout s'il y a la prison à la clé, tout le monde a peur de la prison. Personne ne souhaite aller en prison. Évidemment que j'ai peur. Évidemment que ça ne me ferait pas plaisir. Je connais la prison, je sais ce que c'est. J'en ai fait 35 jours. C'est pas agréable et je souhaite pas y retourner.
C'est vrai que vous avez été sollicité pour des livres, des films
Alors, j'ai vu tout et n'importe quoi écrit et dit sur le sujet, y compris que j'allais jouer mon propre rôle. Je n'ai jamais été en contact avec aucun producteur de cinéma et je n'ai jamais eu l'intention de jouer mon propre rôle, c'est n'importe quoi. Voilà, il n'y a aucun projet à l'ordre du jour d'un point de vue cinéma ou autre. Encore une fois, je vous le dis, et c'est absolument contre nature, je n'ai absolument pas envie d'être célèbre, que ma vie soit étalée dans tous les journaux, que des choses complètement fausses soient écrites, que des propos soient volés, que des photos soient volées. c'est pas forcément très agréable. Même si c'est toujours sympathique d'avoir des gens qui vous transmettent des messages de soutien, c'est effectivement c'est oppressant. C'est pas dans ma nature de m'exprimer, c'est pas dans ma nature de m'exposer, c'est pas moi.
Une fois que toute cette affaire sera terminée, vous aurez envie de quoi ?
L'anonymat, la paix et vivre tranquillement.
Qu'on vous reconnaisse pas dans la rue ?
Qu'on me reconnaisse pas dans la rue, de ne plus voir mon nom écrit partout dans les journaux dès qu'il y a la moindre petite news.
De ne plus avoir des paparazzi devant la porte ?
Effectivement, ça m'arrangerait bien également de ne pas être suivi de temps en temps. Voilà, tout simplement qu'on m'oublie.
Qui était Jérôme Kerviel avant l'affaire et qui est-il aujourd'hui ?
Il y a une constante. Avant et après, je suis toujours été Mr. Nobody, Monsieur Personne, et j'espère le redevenir très rapidement.